affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour, merci de votre fidélité à l'écoute de notre antenne. Dans notre émission de ce jour, il sera question d'économie, il sera question de l'esprit d'entreprise. Nous avons en effet la chance de recevoir dans nos studios Christian Poyot. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour à tous.
Christian Poyot, vous êtes entrepreneur, vous êtes fondateur et PDG du groupe Micropole, que vous avez créé, je crois, en 1987. Un groupe qui est spécialisé dans le conseil et l'ingénierie. Enfin, vous êtes également président de la fondation Croissance Responsable, qui, si je ne me trompe pas, réunit des personnalités d'horizons divers pour réfléchir à un meilleur fonctionnement de notre modèle économique et social. J'ajoute enfin que vous êtes ici chez vous, puisque la fondation Croissance Responsable est hébergée par l'Institut de France. Pour commencer, Christian Poyot, pouvez-vous nous tracer la genèse de la fondation Croissance Responsable? Qu'est-ce qui a motivé le souhait de la créer? Puisque j'imagine que vous étiez déjà très occupé en tant que président de Micropole, c'est donc qu'il y a une raison.
L'idée de départ, ou plutôt le constat de départ qui a été fait par un certain nombre d'entrepreneurs, de mes amis, c'était qu'au-delà de l'incompréhension du monde de l'entreprise, il y a une incompréhension en France vis-à-vis de l'économie de marché. C'est-à-dire que l'économie de marché, très souvent, n'est pas comprise, voire dans certains cas rejetée en France. Et c'est assez problématique, évidemment, pour faire évoluer le pays. Il y a un sondage de Global Scan qui paraît tous les ans, qui montre que les Allemands adhèrent à peu près à plus de 50% à l'économie de marché, et les Français à moins de 20%. Donc, l'idée de base que nous avons eue, c'était de mieux communiquer sur cette économie de marché, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas aussi, parce que, bien sûr, tout est perfectible en tant que tel. En clair, de confronter nos idées sur l'économie de marché. Voilà un peu l'idée de base, enfin la genèse de la création de la Fondation Croissance Responsable.
Alors, à votre sens, c'est cette relation un petit peu particulière, effectivement, des Français à l'égard de l'économie de marché, est-ce un trait culturel ancien? Est-ce plutôt une évolution récente liée à la tournure que prend la mondialisation, au sentiment que la France n'est pas armée et qu'elle décroche dans cette mondialisation? Comment l'expliquez-vous?
Alors, sur le rapport des Français à l'économie, c'est un vaste débat. En fait, il y a différentes théories. Il y en a qui font remonter ça vraiment à des temps très anciens, d'autres qui remontent plutôt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je serais plutôt dans cette logique-là. Si on regarde, par exemple, la création d'entreprises, en fait, on s'aperçoit qu'avant 1914, elle était proportionnellement plus importante qu'aujourd'hui. Donc la France est un pays comptant de très nombreux entrepreneurs et des réussites formidables. Donc peut-être la vision un petit peu perturbée de l'économie, pour moi, est quelque chose de plus récente, qui date finalement d'il y a une trentaine d'années, mais par contre qui est réelle et qui est une vraie différenciation par rapport aux autres pays européens, par exemple.
Oui, et même par rapport aux Chinois, parce que je crois que le sondage auquel vous faisiez référence semble décrire un rapport plus problématique à l'économie de marché en France qu'en Chine.
Ah la Chine, pays que je connais bien, parce que Micropole est implanté là-bas, je peux dire que les Chinois n'ont aucun problème avec l'économie de marché. Ils trouvent ça très bien, ils la développent de manière très importante. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste une question de théorie économique, c'est simplement de se dire, tout le monde constate évidemment que la France est dans une situation un petit peu compliquée, on va dire de cette manière-là. Pour la faire bouger, il faut qu'on la fasse bouger collectivement et qu'on arrive à trouver des voies médianes qui conviennent au plus grand nombre. Mais encore une fois, quand c'est un peu comme si on était sur un terrain de football et qu'on ne connaisse pas les règles ou qu'on ne les accepte pas, c'est difficile d'avancer. Donc vraiment, le premier point, c'est de mieux faire comprendre quels sont globalement les mécanismes de cette économie de marché et ce, à l'ensemble des Français.
Alors, quels sont les leviers que vous avez décidé d'actionner pour atteindre cet objectif?
Alors, donc la fondation s'est créée avec une vision d'essayer de toucher le plus grand nombre. C'est-à-dire que, comme on le dit un peu souvent, alors je vais faire rebondir parce que je suis sous l'égide de l'Institut de France, mais on n'est pas un think tank, on est un doux tank. Et le chancelier me permettra cet anglicisme. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est-à-dire qu'on essaye d'être dans l'action. Donc on n'a pas vocation, si j'ose dire, à uniquement publier des rapports, des livres blancs, etc. Ce que font d'autres organismes, ils le font très bien. On essaye d'être dans le très concret, c'est-à-dire d'aller voir les Français au quotidien et de communiquer avec eux sur ce qu'est l'économie de marché. Quelle est la forme la plus emblématique de ça? Bien, ce sont des stages de professeurs d'entreprise que nous avons mis en place maintenant depuis 2 ans.
Alors, comment se déroule-t-il?
Alors, là aussi, c'est très simple et très concret. Ça concerne donc des professeurs de 3e et de 2e. professeur d'enseignement général, donc de maths, de français, d'histoire, des conseillers d'orientation également, qui vont donc passer 3 jours dans une entreprise de tout secteur d'activité, de toute taille, avec un simple objectif de découvrir un petit peu quelle est la vie quotidienne de ces entreprises, c'est-à-dire tout simplement quelle est la réalité des collaborateurs dans une entreprise. Voilà, c'est vraiment très simplement une notion de découverte et d'échange sur la réalité du monde économique.
Oui, c'est original. On a longtemps parlé de la nécessité de faire rentrer l'entreprise dans l'école. Vous avez pris le parti pris inverse, celui de faire rentrer l'école dans l'entreprise.
Oui, tout à fait. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un certain nombre d'actions et tout à fait bonnes qui sont menées dans le sens, effectivement, où les entreprises viennent dans les écoles. On sait que les élèves de 3e également font un stage dans les entreprises, mais rares, voire quasi inexistantes, sont les actions où des professeurs d'enseignement général viennent dans des entreprises. Donc, on a évidemment décidé d'aller là où les choses pouvaient évoluer le plus rapidement. Et encore une fois, c'est un retour, là, maintenant, depuis 2 ans, qui est excessivement positif. Hein. On a des promotions d'une centaine de professeurs. Il y en a 2 par an. Aujourd'hui, nous sommes uniquement en région parisienne, mais enfin, en Île-de-France, mais on a évidemment des projets pour s'étendre sur l'ensemble du pays. Et les retours, vraiment, sont très positifs. Encore une fois, il ne s'agit pas de vendre l'entreprise, mais simplement que les professeurs appréhendent un petit peu mieux quelle est la réalité quotidienne d'une société.
Sans craindre d'être trivial, c'est un petit peu comme ce programme d'une émission de télévision sur le thème un peu vie ma vie, c'est-à-dire qu'on leur demande de jouer un rôle dans l'entreprise, comme alors si c'est stagiaire.
Oui, on peut faire la comparaison, je ne prendrais pas par contre le mot de jouer un rôle. Hein. En fait, ils viennent dans l'entreprise et puis ils s'assoient à côté la directrice des ressources humaines ou du chef d'atelier ou de l'ingénieur commercial et puis ils regardent ce qui se passe, quelle est la réalité, encore une fois, du quotidien de ces personnes dans les entreprises pour mieux comprendre comment ça se déroule. Et très souvent, les professeurs qui sont en fait très intéressés par rapport à ça reconnaissent qu'ils avaient des visions qui étaient en tout cas pas obligatoirement les bonnes et qu'ils ont appris des choses. Alors l'entreprise, c'est un monde formidable. Il y a plein de choses extraordinaires. Il y a aussi des moments plus difficiles parce que c'est tout simplement une communauté de vie, enfin, d'hommes et de femmes. Voilà. Mais en tout cas, ils admettent clairement qu'ils ont une vision complètement différente et beaucoup plus pragmatique de ce qu'est le quotidien d'une société et d'une entreprise.
Vous avez dit qu'ils ont sous-entendu, ou en tout cas c'est ce que j'ai compris, qu'ils avaient donc un certain nombre d'a priori sur le monde de l'entreprise. Quels sont-ils ? Vous avez pu les identifier ? Est-ce que même s'en ouvre à l'issue de leur présence ?
De toute façon, la France est un pays de cloisonnement, très souvent, malheureusement. On a les entreprises, on a les professeurs, on a les hommes politiques, on a les journalistes, on a les juges. Enfin, on pourrait faire une liste assez importante.
On aime raisonner en corporation.
Voilà, en corporatisme. Chacun a une vision de l'autre, en général, c'est caricatural, donc en partie fausse. Ça marche dans les deux sens. Hein. On peut dire que les chefs d'entreprise ont souvent une vision aussi qui est un peu ancienne du monde de l'éducation nationale. Donc, simplement que les gens se rencontrent permettent de faire tomber les barrières. Vous me posiez la question de quels sont les points qui les surprennent le plus. Il y en a un que je cite à chaque fois, qui est le tutoiement. Les professeurs sont en général assez surpris que dans les entreprises, les gens se tutoient. Alors, tout le monde ne se tutoie pas. Enfin, c'est quand même assez courant, même très répandu. Et ils ont plutôt une vision de l'entreprise dans laquelle il y aura des rapports hiérarchiques très formels et un petit peu, éventuellement difficiles. Alors que l'entreprise, encore une fois, les gens échangent au quotidien et dans des modes tout à fait simples et directs.
C'est-à-dire que si je comprends bien, ils ont quand même une vision de l'entreprise un peu taylorienne, pyramidale, avec des structures rigides. Ils n'ont pas bien perçu les évolutions
Peut-être, mais encore une fois, moi je suis absolument pas pour leur en faire grief, c'est pas ça le sujet, c'est vraiment des mondes qui ont très peu l'habitude de se côtoyer, donc qui résonnent sur des images qu'ils ont reçues ou des informations, etc. Et ça, encore une fois, ça marche dans les deux sens, donc là il s'agit pas du tout de dire pourquoi, comment, etc. Peu importe, le sujet c'est vraiment de faire bouger les lignes. Les professeurs sont aussi assez surpris en général que dans les entreprises il y ait des discussions, des échanges, des confrontations d'idées, de points de vue, d'actions, etc. Et puis par contre, on essaie de trouver le commun dénominateur et après d'agir tous ensemble. Mais encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. L'image d'Épinal passé, finalement, n'est pas l'objet. C'est de se dire, voilà, maintenant ça fonctionne, comment on peut avancer, comment on peut mieux collaborer derrière. Et encore une fois, tous les professeurs que nous avons vus et ont fait un stage dans une grande ou une petite entreprise se disent, tiens, j'ai une vision d'entreprise beaucoup plus ouverte et dynamique. Et c'est vrai qu'on a tous intérêt à collaborer.
Et avant l'issue du stage, comment les trouvez-vous ? C'est sur la base du volontariat ? A-t-il fallu faire des conventions avec l'éducation nationale ?
Alors, tout ça est évidemment excessivement, structuré, normé, etc. L'Institut de France, et d'ailleurs c'est le chancelier Gabriel De Broglie qui a signé au nom de la Fondation avec les trois recteurs de l'Île-de-France et également avec l'Inspection générale de l'Éducation nationale, qui au passage nous en a énormément aidé, avec un organisme qui s'appelle le CERPET. CERPEP maintenant. Donc il y a une convention très très formelle. Ce stage est proposé aux professeurs dans le cadre du plan académique de formation. Tous les professeurs ont droit à une petite dizaine de jours, je crois, par an de formation, ce qui est tout à fait normal. Et donc là, c'est un stage très très formel, dans le cadre de l'éducation nationale qui leur est proposé. Après, en fait, on agit avec les rectorats qui, eux, vont sur le terrain, vont voir les chefs d'établissement, font agir leurs relations pour trouver des professeurs qui sont effectivement motivés. C'est sur la base du volontariat, bien évidemment.
Parmi nos auditeurs, nous avons bien évidemment des professeurs, justement. S'il leur venait le souhait de vouloir participer à l'un de ces stages, ils peuvent se manifester donc auprès de leur hiérarchie.
De leur hiérarchie, évidemment. Après, il y a www.croissance-responsable.com, on a bien sûr un site qui permet de s'inscrire, d'avoir le maximum d'informations. Mais encore une fois, ils peuvent aussi toucher la voie hiérarchique pour avoir ce genre de choses. Et on serait très heureux de les accueillir. Toutes les candidatures sont les bienvenues.
Et la durée du stage est donc de...
Alors, en fait, c'est 5 jours. Il y a une première journée de présentation de ce qu'est une entreprise du point de vue microéconomique, donc qui est fait par les entreprises qui nous aident, notamment KPMG et puis Adecco, qui en fait présente, quels sont le fonctionnement d'une entreprise avec des clients, des fournisseurs, et puis deuxièmement, quels sont les métiers d'une entreprise, encore une fois, qu'est-ce que c'est un chef d'atelier ou un ingénieur ou un chef d'atelier ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça leur permet pendant cette première journée on leur présente aussi le déroulement du stage, donc de mieux comprendre. Après, il y a les 3 jours de stage, et puis après une dernière demi-journée qui à nouveau est à l'Institut, dans lequel là, c'est un échange, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui les a surpris, étonnés, agacés. Et encore une fois, de faire un débriefing, si j'ose dire, entre les professeurs et la fondation.
Est-ce que les liens perdurent ensuite ?
Alors bien sûr, c'est une volonté même de la part une demande de la part des professeurs qui disent que c'était vraiment très intéressant. Il y a même certains qui ont déjà fait 2 stages, donc qui demandent à rester en lien avec l'entreprise et avec la fondation et à recueillir des données, des échanges, etc., etc. D'ailleurs là, on tombe sur un deuxième aspect du travail de la fondation qui est le thème de travail. On a quand même retenu un certain nombre de sujets. Le dernier, la finance responsable qui a été présentée là, il y a maintenant 2 semaines au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Avec Bertrand Collomb qui est le président de cette académie cette année. Et donc après, les résultats de ce travail qui a été encore une fois très ouvert avec des personnalités d'horizons très diverses va être échangé, communiqué avec les professeurs pour leur donner des outils pédagogiques sur qu'est-ce que la finance responsable.
Alors précisément, avant sur le précédent sujet, j'ai encore une dernière question. Parmi ces professeurs, est-ce que certains ont fini par attraper le virus et s'ouvrent à vous du désir de créer leurs entreprises ? Ou est-ce que je rêve complètement ?
Non, pas du tout. Non. Je me rappelle en tout cas un professeur qui a dit c'est vrai que ça m'a donné des idées. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de postuler comme chef d'établissement, alors qu'il avait il était pour l'instant uniquement professeur. Et certains, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont passés à l'acte, mais vous considérez que la création d'entreprise est effectivement un sujet tout à fait intéressant. Et il faut voir que c'est un intérêt également pour leurs élèves, parce que le but, bien sûr, par rapport à ça, c'est qu'ils puissent communiquer à leurs élèves quels sont les métiers qui sont les plus ouverts, les plus performants, les plus porteurs d'avenir, et puis également la création. Entreprise.
Oui, parce qu'au fond de tout ça, il y a le désir de développer l'envie d'entreprendre en France.
Oui, enfin, le premier point, c'est vraiment mieux faire comprendre l'économie de marché. Ça, c'est vraiment la base. Il est évident qu'une fois qu'on a mieux compris et fait évoluer l'économie de marché, une des logiques évidentes, c'est de dire devenir soi-même entrepreneur. Alors entrepreneur en créant une entreprise ou en tout cas soi-même entrepreneur ayant une dynamique propre pour évoluer dans l'économie de marché et créer sa propre expérience, créer son propre job, ou que ce soit au sein d'une entreprise ou de manière autonome. Mais bien sûr que la création d'entreprise, sujet qui m'est cher comme vous en doutez, est une des évolutions logiques de la connaissance de l'économie de marché.
Alors, quels sont selon vous les freins à cette création ? Parce qu'on parle beaucoup des retards pris par la France en la matière, au-delà des traits culturels que nous avons évoqués, ou de l'incompréhension, ou du manque de connaissances sur le fonctionnement de l'économie de marché. N'y a-t-il pas d'autres freins dans notre pays sur lesquels il faut agir ?
Alors, sur les freins à la création, la création d'entreprise, je vais peut-être vous surprendre en me disant qu'en France, il y en a très peu. Il y en a très peu. Et on est très bon en création d'entreprise. Déjà, il y a plein de gens qui ont envie de créer des entreprises. Et franchement, je pense qu'on a plus de dynamisme de ce côté-là que même l'Allemagne ou l'Angleterre. Et il y a beaucoup aussi, d'ailleurs, qui vont créer leur entreprise, malheureusement, à l'étranger, si j'ose dire. Donc, la création n'est pas un problème. Il y a tout un tas d'aides. Alors, il y a le dispositif des jeunes entreprises innovantes. Il y a eu les lois du trait qui ont abaissé les montants du capital social. Enfin, on ne va pas rentrer dans la technique, mais il y a tout un tas de sujets qui aident à la création d'entreprise. Le problème que nous avons en France, c'est dans le développement des entreprises. Et en fait, il y a beaucoup de sociétés, mais il n'y a pas assez, malheureusement, qui atteignent une taille respectable.
Il y en a qui meurent et d'autres qui n'arrivent pas à se développer.
Oui, ça, le fait qu'une entreprise puisse à un moment disparaître, une entreprise, c'est comme un corps vivant. Et malheureusement, tout le monde n'arrive pas à se développer, etc. Donc, on ne va pas obliger à ce que les entreprises se développent.
Parfois, ça dépend un peu de l'environnement aussi.
Voilà. Par contre, l'environnement en France, pour le coup, au niveau du développement, n'est pas suffisamment favorable, pour le dire de cette manière-là. Et on voit, en France, il y a donc à peu près 1000 ETI familiales. Une ETI, c'est donc une entreprise qui compte plus de 250 personnes et moins de 5000. Et donc, en France, encore une fois, à peu près 1000. Alors, je crois qu'en Allemagne, il y en a 20 000. Enfin, on est dans des rapports complètement disproportionnés.
Une ETI, c'est une PME qui a grandi.
C'est une PME qui a grandi. Voilà, c'est la Micropole en est une. On est entre la PME et bien sûr la très grande entreprise.
Alors, quels sont selon vous les verrous qu'il faudrait faire sauter ou les leviers qu'il faudrait mettre en place pour permettre cette croissance?
Alors là, il y en a beaucoup. Il faudrait peut-être qu'on rallonge l'émission, malheureusement.
Donc, alors, les principaux.
Mais les principaux, c'est certainement tout ce qui est lié au coût du travail, au droit du travail. Hein, c'est certainement les points majeurs qui, aujourd'hui, nous différencient par rapport aux autres pays européens.
Dans l'intitulé de votre fondation, « Croissance responsable », ça laisse penser qu'il pourrait y avoir, à contrario, une croissance irresponsable et que votre objectif n'est pas seulement d'agir sur les facteurs extérieurs au monde économique qui pourraient brider son développement, mais également, ça laisse entendre une volonté d'auto-réforme du monde de l'entreprise. C'est l'intitulé de votre colloque également, « Finances responsables ». Ça laisse entendre que là aussi, il est nécessaire d'agir.
Bien sûr, nous sommes les premiers à dire que l'économie de marché, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, pour paraphraser une phrase célèbre de Winston Churchill. En fait, le débat est de dire que pourquoi croissance responsable? Alors, si on prend dans l'ordre, croissance, parce que nous sommes des partisans de la croissance. Certaines théories vont dans la décroissance. Pour nous, ce sont des choses non seulement impossibles, mais irresponsables, etc. Donc, il faut poursuivre dans la logique de croissance que l'humanité, au sens très large, connaît depuis au moins 500 000 ans.
Et qui se confond avec la vie elle-même. Peut-être.
Qui se confirme que la vie elle-même, tout à fait. La croissance, c'est la vie. Bon. Maintenant, il est évident que croissance, elle peut se faire de différentes manières et certaines sont non seulement irresponsables, ou cas non responsables, voire même dans certains cas condamnables. Et dans le travail que fait la Fondation, il vise à dire que dans l'économie de marché, encore une fois, des choses doivent évoluer. Certaines choses ne sont pas acceptables, sont préjudiciables finalement au bon développement global de la croissance. Et il s'agit de réfléchir dessus et de voir comment les faire évoluer. On peut après extrapoler, bien sûr, c'est ça, à des sujets comme la finance ou tout autre point. Donc, c'est vraiment les deux piliers de la Fondation, de dire l'économie de marché, oui, bien sûr, parce que ça va vers la croissance, mais à côté de ça, comment faire pour que tout ça soit, au sens vraiment de responsable, soit, comment dire, porteur d'avenir et ne soit pas des développements à court terme qui sont préjudiciables pour nos enfants et petits-enfants.
Justement, à propos de court terme, est-ce que la finance responsable ne serait pas d'abord une finance qui vise à nouveau le long terme? Alors que lorsqu'on parle à des chefs d'entreprise, notamment puisqu'il s'agit d'eux, ils ont un petit peu le sentiment d'être astreints au court terme par la façon dont la finance fonctionne aujourd'hui. C'est caricatural ou c'est du vécu?
Alors, je voudrais d'abord revenir sur pourquoi est-ce que nous avons choisi le thème de la finance responsable. La finance est très souvent jetée en opprobre. On considère que c'est un monde obscur, négatif, etc. etc. Bon. Or, la finance, finalement, c'est indispensable aux entreprises. Moi, je le dis en tant que chef d'entreprise, même si il m'arrive de pester contre mes banquiers, bien évidemment, mais les banquiers et les autres, les gestions de fonds, etc., sont tout à fait indispensables à l'économie. Et ce sont les gens qui par nature, doivent bien sûr exister, non seulement se développer. Et une économie développée nécessite une finance développée. Bien. Maintenant, la finance, comme tout secteur d'activité, eh bien, évidemment, peut connaître des dérives ou des développements de produits, d'activités qui, pour le coup, là, deviennent moins responsables ou centrés sur eux-mêmes ou court-termistes, comme vous le disiez à l'instant. Ça existe aussi dans notre secteur. On pourrait parler de la chimie, on pourrait parler de l'agroalimentaire, on pourrait parler de tas de sujets. Mais c'est vrai que la finance porte de par elle-même une image qui est très souvent mise en avant. Donc l'objectif de notre travail a été de faire une réflexion honnête, ouverte, diverse, pour dire voilà, la finance, c'est indispensable, on en a besoin, voilà ce qui marche, et puis voilà ce qui ne marche pas, en tout cas ce qui devrait évoluer. Et bien sûr qu'il y a des sujets qui doivent évoluer, ça a été évoqué notamment lors du colloque. Donc, essayer d'avoir une position plus raisonnée que irrationnelle pour tout jeter en même temps, alors que ce n'est pas la bonne approche.
Alors justement, faisons la distinction, ce qui marche.
Ce qui marche, si on prend en France, pour rester dans notre pays évidemment, sur le financement des PME, je me centre sur PME en TI en tant que tel, on peut dire que c'est globalement quelque chose, notamment durant la crise qu'on connaît depuis maintenant 2008, qui a plutôt bien fonctionné. Rien n'est parfait, bien évidemment, et on trouvera toujours des exemples dans lesquels des entreprises pourraient avoir des critiques vis-à-vis de leurs banques. Mais globalement, le système bancaire français a plutôt bien répondu, en tout cas a aidé globalement à traverser cette crise et à aider les PME. Bon. Après, c'est vrai qu'il y a un ensemble de produits financiers, d'ailleurs pour le coup pas uniquement français, même très souvent développés dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui eux ont des répercussions que l'on peut juger au mieux inutile, voire dans certains cas néfaste. S'il faut en citer qu'une seule, on pourrait dire le trading à haute fréquence, qui en tout cas, vu de ma fenêtre, est un sujet qui doit être condamné, voire carrément arrêté en tant que tel.
Vous pouvez nous expliquer techniquement ce dont il s'agit ?
Alors le trading à haute fréquence, c'est en fait quand vous avez des sociétés cotées sur le marché, mais la cotation ne se fait plus par un être humain qui décide en toute connaissance de cause d'acheter ou de vendre une action, mais par des systèmes purement informatiques qui, selon des algorithmes très puissants, achètent ou vendent des actions dans des délais de quelques microsecondes, non pas en raisonnant sur la valeur propre de l'entreprise, mais en raisonnant simplement sur les écarts de gains potentiels entre le marché à Londres, à New York, dans différentes places ou différents produits. Donc là, le raisonnement est fait uniquement avec une notion spéculative, et le mot spéculatif, pour moi, n'est pas obligatoirement un gros mot. Hein.
Non, en tout cas, avec, pari à long terme,
voilà,
c'est très bien.
C'est spéculatif, mais qui est vu uniquement avec une vision de hyper court-termiste et simplement de par des machines qui donc n'ont pas de vision économique de ce qu'elles achètent ou ce qu'elles vendent.
Déconnectées de l'économie réelle.
Voilà, donc ça c'est un exemple certainement de produits financiers que la finance a créé. D'autres produits sont tout à fait nécessaires et doivent être encouragés et développés, mais certains, encore une fois, doivent être au mieux analysés a posteriori pour voir est-ce qu'ils sont utiles, est-ce qu'il faut les faire réformer ou alors carrément les interdire.
D'un mot, le rôle de la finance dans l'économie, quel est-il ?
Ah ben il est vital, hein. Il y a deux comparaisons possibles, c'est soit le sang dans un corps humain parce que c'est lui qui envoie l'oxygène aux différents membres, au cerveau, etc. Vous pouvez le mettre aussi dans le sens de l'essence dans une voiture. Enfin, les comparaisons sont multiples. Encore une fois, il faut bien comprendre que sans finance et donc sans financement, l'économie ne va pas avancer. Mais le financement, c'est aussi un particulier qui veut acheter une voiture ou un studio ou quoi que ce soit. Et pour une entreprise, c'est tout à fait pareil. Donc nous avons absolument besoin de financement. Et encore une fois, un financement développé permettra une économie développée.
On parle beaucoup du terme de financiarisation de l'économie. Est-ce que c'est une notion qui vous semble juste ou exagérée ?
Elle est certainement juste dans le sens où c'est vrai que, encore une fois, du fait de la création d'un certain nombre d'outils, de produits et puis la mondialisation qui, bien sûr, amplifie les choses, on voit notamment aux États-Unis que la part des sociétés financières dans le produit intérieur brut a grandi de manière très importante depuis une dizaine d'années, pour faire court, si j'ose dire. Bon, c'est pas qu'une industrie, puisque finalement la finance est une industrie, comme les autres grandissent, après tout, pourquoi pas. On peut imaginer quand même que c'est vrai que cette part grandissante de la finance dans le produit intérieur brut puisse éventuellement amener à se poser quelques questions. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, je pense, qu'on entend financiarisation, c'est-à-dire que le poids de la finance, surtout, encore une fois, lié à cette mondialisation, donc à des marchés qui sont très, très complètement connectés, dans lesquels les financements peuvent évoluer autant qu'ils le souhaitent, a été en tout cas peut-être trop importante ou en tout cas nécessiterait peut-être d'être régulée, ce qui est déjà le cas d'ailleurs par les États au point de vue international.
Oui, c'est ça. Le remède passe-t-il, à votre sens, par une autorégulation du secteur, par une intervention des puissances publiques?
Non, autorégulation, autorégulation, non. Enfin, il y en a toujours de l'autorégulation. Hein. Faut pas non plus dire que tout le monde a des visions, comment dire, uniquement court-termistes. Hein. Et je parlais tout à l'heure des banques françaises, encore une fois, sans chercher à leur faire en permanence, comment dire, envoyer des lauriers. Mais il y a une part d'autorégulation dans le sens où elles comprennent bien que prêter, par exemple, à des PME est un acte indispensable, même pour elles-mêmes, d'ailleurs, à long terme. Bon. Maintenant, la main invisible du marché, pour reprendre la fameuse théorie économique, n'est absolument pas suffisante, ou en tout cas crédible. La nature humaine fait qu'il doit y avoir des autorités alors de régulation ou de supervision. Là, il y a un débat technique entre les deux, mais en tout cas, que comment dire, la démocratie puisse, à un moment donné, décider de freiner, d'interdire, de ralentir ou d'accélérer telle ou telle chose. Donc la régulation est évidemment tout à fait indispensable. Personne ne le conteste, d'ailleurs. Je n'ai jamais vu un financier responsable dire l'inverse. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il y a même d'ailleurs beaucoup de régulations qui ont été mises en place depuis 2008. Certains peuvent dire trop, comment on les contrôle, etc. Mais encore une fois, il faut bien sûr de la régulation et de la supervision.
Parmi les conclusions de votre colloque, vous avez proposé, j'imagine, des mesures concrètes destinées à améliorer le fonctionnement du système financier. Quelles sont-elles ?
Alors, à vrai dire, on s'est quand même plus centré sur le côté pédagogique. Là, je reviens sur notre point d'entrée qui était de communiquer vis-à-vis du plus grand nombre. Notre objectif initial n'était pas de proposer la mesure réglementaire sur la norme bancaire X ou Y ou de dire il faut faire telle évolution dans la supervision. Notre objectif était de lever un certain nombre de sujets, d'échanger dessus, de montrer ce qui était bien et pas bien, en tout cas ce qui était responsable et ce qui ne l'était pas. Et encore une fois, ça a été fait avec une commission de travail qui regroupait des gens d'horizons très divers, avec des points de vue très, comment dire, vraiment, qui ont amené un échange, voire même dans certains cas une confrontation importante. Mais après, ce qu'on souhaitait surtout, c'était communiquer vis-à-vis du plus grand nombre. Donc nous avons fait notamment réaliser des vidéos qui expliquent qu'est-ce que c'est une banque, qu'est-ce que c'est un produit dérivé, qu'est-ce que c'est la spéculation. J'engage tous vos lecteurs à aller encore une fois sur notre site croissance-responsable.fr pour les regarder. Elles sont en ligne ou vont être en ligne dans les jours qui viennent. Et puis ces vidéos et puis tout le texte qui a été produit, tous les rapports de commission vont être envoyés aux professeurs et diffusés le plus largement possible. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un premier temps, en tout cas, il nous semble aussi indispensable d'expliquer à tous les Français qu'est-ce qu'est un produit dérivé, sujet qui n'est pas si communément connu, que d'aller proposer l'évolution de telle ou telle norme. Une fois que les Français, globalement, auront une meilleure compréhension de ce que sont ces mécanismes financiers, après, ils pourront faire leur jugement. Et puis, on est en démocratie, et c'est la grandeur du sujet pour dire on fait ou on ne fait pas. Ce qui nous pose un peu problème aujourd'hui, c'est que très souvent, et ça peut être compréhensible, les gens prennent des positions sans connaître la réalité. La finance est condamnable. Bon, OK, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Il y a des choses bien et des choses pas bien. Et très souvent, la finance, les gens dedans agrègent encore une fois, les banques, les hedge funds, les agences de notation, les fonds d'investissement court terme, long terme, etc. Donc le premier sujet que nous avons cherché à faire, et je pense qu'on a atteint cet objectif, c'est un petit peu de faire de la pédagogie sur qu'est-ce que c'est la finance, que les gens comprennent un petit peu mieux. J'ajoute d'ailleurs que tout ce travail était fait dans cette commission dans laquelle il y avait également des élèves. Donc nous avons travaillé avec des lycées et collèges de l'Île-de-France, de première, de BTS, qui en fait, là aussi, ont pu amener leur vision en tant que jeune sur qu'est-ce que c'est la finance, comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui est condamnable. Et ils ont participé également d'ailleurs au colloque d'il y a deux semaines.
Alors justement, quelle était leur vision ?
Elle était intéressée, ça soyons très clairs, intéressée et tout à fait conscient que le monde de la finance était quelque chose qui devait être plus connu, c'est-à-dire de dire que le monde de la finance, point, c'est un peu court, si j'ose dire, et ils avouaient tout à fait là-dessus leur besoin, encore une fois, d'apprendre, de mieux comprendre pour après se faire un jugement, bien évidemment. Hein. Après, ils ont eu des questions, il y en a une qui était notamment, dont je me rappelle, qui était de dire est-ce que le système financier ou le système capitaliste, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui, va être le vrai vecteur pour évoluer globalement dans un monde plus responsable, y compris du point de vue environnement, qui est aussi un autre sujet parallèle à tout ça. Donc ils ont quand même, en tout cas, une interrogation sur le fait de se dire est-ce que l'économie de marché est un système qui va pouvoir évoluer. Voilà. Et on a essayé de leur amener une réponse là-dessus. Moi, personnellement, j'en suis tout à fait persuadé. L'économie de marché, encore une fois, en dehors de certainement de ces points d'évolution, est un système qui encourage la création de valeur, qui encourage l'esprit d'initiative, qui encourage la création d'entreprise. Et c'est ça qui va nous permettre de continuer à évoluer.
Et donc l'adaptation.
Et donc l'adaptation, on retombe sur ce point-là, si on raisonnait en économiste, on dirait Schumpeter, la destruction créatrice, c'est-à-dire encore une fois, de favoriser les idées qui vont permettre de continuer à avancer globalement, autant en économie que dans tous les autres sujets.
Alors justement, pour des jeunes, ce qui est assez surprenant, c'est de voir les réticences de certains quand même, à l'égard finalement d'un système qui leur permet de prendre leur vie en main, de gagner en indépendance, de mettre en œuvre des idées, d'être autonome, et dans un système et dans un environnement extrêmement libre. Comment expliquez-vous cette dichotomie ?
Alors, je crois qu'on voit toujours... l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Là, on se demande où est l'ailleurs, premièrement. Et puis, on oublie effectivement ce qui s'est passé. Hein. Vous parliez tout à l'heure de la Chine, que pays que j'ai la chance de connaître maintenant assez bien, depuis une dizaine d'années. Les Chinois, eux, ils voient très bien ce que c'est l'économie de marché. Ça leur a amené, c'est tout bête, mais le confort de la vie quotidienne, hein, ce qui est déjà un principe de base, est quand même excessivement important. Et puis, la possibilité de prendre des vacances, de voyager, de vivre dans des conditions meilleures et puis de communiquer. Voilà. C'est ce qui s'est passé aussi dans nos pays européens, sans remonter aux calendes grecques, mais on va dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie de marché a fait progresser la société de manière excessivement importante. Prenons un point tout simple, hein, l'espérance de vie, elle a pris, je crois, 10 ou 15 ans, la santé, la mortalité infantile, enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont liés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des idées, qui ont créé des laboratoires pharmaceutiques, il y a eu des développements, des créations, etc. Donc, l'économie de marché, encore une fois, est le système qui nous a permis de faire une évolution excessivement importante. Alors, quand on a 18 ans aujourd'hui, évidemment, on ne va pas leur parler des années 60, ça leur semble très, très ancien. Mais je pense qu'il est important de rappeler, oui, que l'économie de marché est le système qui a fait évoluer globalement la France et tous les autres pays dans une voie excessivement positive. Alors bien sûr, malheureusement, rien n'est parfait, surtout dans ces années que nous connaissons qui sont un peu plus dures. Il y a bien sûr du chômage, il ne s'agit surtout pas de mettre de côté tous ces points-là. Mais si on a l'intelligence et l'honnêteté surtout de regarder en globalité en quoi l'économie de marché a fait évoluer la société dans son ensemble, et là je ne parle pas uniquement d'avantages purement économiques, mais d'avantages sociétaux, la question est tout de suite tranchée. L'économie de marché est le système qui a permis vraiment de faire un bond en avant excessivement énorme et pour notre qualité de vie et notre confort de vie à tous au quotidien.
Et en termes plus prosaïques ou plus concrets, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage présenter l'entreprise comme une aventure humaine ? Finalement, c'est quelque chose qui reste souvent au second plan, souvent dans d'autres pays européens ou bien encore davantage sur d'autres continents. Elle est d'abord vue comme une aventure personnelle ou collective, humaine. C'est souvent l'arrière-plan en France, non ?
Oui, il y a toujours un côté... Il y a en France un côté égalitariste. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très ancien. On peut remonter à la Terreur ou à Proudhon ou à quoi que ce soit. Donc il y a toujours un côté où il faut tout mettre en commun en tant que tel. Ça, c'est le premier point. Et puis des fois, et depuis un moment, malheureusement, il y a un peu une peur de l'inconnu. On voit le principe de précaution qui a été mis dans la Constitution. On peut comprendre la logique, mais globalement, ça revient à freiner un peu l'esprit d'initiative et la prise de risque, qui doit être nécessaire, mesurée certes, mais en tout cas qui est nécessaire. Et l'entreprise, c'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les Français, en tout cas une partie des Français, je pense, ont une vision qui est trop, d'une espèce de monstre froid, mais sans voir que l'entreprise, et qu'elle soit petite, grande ou moyenne, toutes les grandes entreprises ont été petites à un moment donné, c'est ce qui permet d'ouvrir des portes, de faire évoluer les gens. Mais c'est, je pense, quand même moins répandu qu'on ne le dit. Et il faut savoir que les jeunes, et dont beaucoup d'entre eux, évidemment, malheureusement, aujourd'hui, ont des difficultés pour trouver du travail, quel que soit leur milieu social, considèrent que l'entreprise, la création d'entreprise est le vrai levier fort pour s'en sortir. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des diplômes ou d'être dans un milieu, aisé, etc., quoi de mieux que la création d'entreprise, et elle est dans tout secteur, hein, dans le textile, l'alimentaire, enfin que sais-je encore, le transport, etc. C'est une vraie aventure, effectivement, pour déjà se révéler, avoir une perspective personnelle tout à fait intéressante, mais également pour créer de la dynamique de l'économie. Donc, c'est vrai que l'entreprise, je pense qu'en France, reste encore à faire découvrir, mais à faire mieux comprendre, et dans sa dimension, pas uniquement économique, mais humaine, c'est-à-dire de parcours d'individus et de groupes d'individus qui permettent d'ouvrir des perspectives et d'aller de l'avant.
Ça fait partie de vos prochains projets. Quel est l'agenda de croissance responsable ?
Alors, il y a deux agendas. Déjà, le premier, c'est sur les stages de professeurs en entreprise.
Hein, qui vont se poursuivre.
Qui vont se poursuivre, bien évidemment. Notre sujet, c'est maintenant de partir en région. Hein, ça a été dès le départ notre idée. Maintenant, on cherche à faire quelque chose qui soit très qualitatif. Donc, on a d'abord cherché à le développer en Île-de-France. Là, maintenant, on va dire que les stages en Île-de-France sont sur les rails. Ils vont bien sûr se prolonger. Mais on souhaite maintenant ouvrir d'autres stages en région. Donc là, c'est un travail, on est en plein dedans pour dire dans quelle région on va essayer de se développer. L'objectif à terme étant d'être le plus largement présent sur le territoire français. Deuxième sujet, ça va être bien sûr le thème de 2014. Là, il y a un conseil scientifique qui va se réunir et qui va travailler sur le sujet pour voir quels sont les thèmes que nous pourrions retenir. Les premiers avaient été l'ascenseur social, la mondialisation, la responsabilité sociale d'entreprise. Donc le dernier, la finance. Donc on a quelques idées, mais là, je ne peux pas trop en parler, qui cherchent à dire quels pourraient être les thèmes, là aussi, qui permettent d'agiter les neurones de tout le monde et de voir comment affronter mieux le développement futur et surtout confronter nos idées sur l'économie de marché.
Pour participer à vos travaux, quelle marche faut-il suivre ? Il faut se rendre sur le site internet, poser candidature. Quelle est la démarche ? Tout le monde peut adhérer à croissance responsable ? Y a-t-il des conditions ?
Oui, c'est pas une notion d'adhésion en tant que telle. Bon, tout le monde peut être donateur. Je fais cette démarche au passage, vous me le permettrez en tant que telle, parce qu'effectivement, la fondation fonctionne avec des donateurs. Et voilà, toute personne intéressée à nous soutenir est évidemment la bienvenue. Après, ce que nous cherchons à développer dans notre site actuellement, c'est une notion effectivement de communauté d'échange. Alors, avec les professeurs, bien évidemment, mais pourquoi pas de manière plus large. C'est-à-dire, effectivement, à chaque fois que nous publions des résultats, c'est essayer d'avoir des retours de l'ensemble des Français. Comme je dis au début, la cible de la Fondation, ce n'est pas un sous-ensemble de personnes qui déjà ont une vision précise de l'économie, mais c'est les Français au sens large. Donc dans le nouveau site que nous avons fait, toutes les personnes qui sont intéressées à réagir sont les bienvenues.
Merci Christian Poyot. C'est la raison pour laquelle, en guise de conclusion, je me permettrai de rappeler l'adresse du site internet de Croissance Responsable. Il s'agit de www.croissance-responsable.fr. C'est donc l'adresse qu'il faut taper sur votre navigateur internet pour participer à ces communautés d'échange dont parlait Christian Poyot. Merci à vous,
merci
aux auditeurs aussi pour leur fidélité, et à bientôt pour une nouvelle émission.